Donc Jésus est ressuscité. Ça, c'est une bonne nouvelle. Il est monté au ciel. Il est désormais assis à la droite de Dieu. Alors j'espère que vous entendez le ouf que pousse toute la création. Enfin, enfin, en Jésus, notre humanité est pour toujours auprès de Dieu et vivante. Bon, alors, on va être un peu dans le ciel pendant quelques temps, mais vous allez voir, c'est important pour comprendre ce que c'est que la vie ordinaire. Enfin, voilà, c'est l'idée que j'essaye d'exprimer, hein. Après, si vous la trouvez pas, vous inquiétez pas, c'est normal. Donc, vous voyez, enfin, enfin, en Jésus, notre humanité est pour toujours auprès de Dieu et vivante. Alors, la fête de l'Ascension qu'on va célébrer bientôt, auquel on se prépare, c'est bien sûr la dernière apparition en chair du Dieu invisible. C'est aussi la remontée de Jésus, hein, du Fils, vers son Père, sa mission terrestre, d'une certaine manière, étant désormais achevée. Mais je crois que le mystère de l'incarnation, c'est aussi, et surtout peut-être, voyez, l'intronisation de cette chair humaine qui a été divinement épousée, qui a été assumée et qui a été restaurée en Dieu. Et intronisation, parce que, comme le dit Éphésiens 1:20, Dieu l'a fait asseoir à sa droite dans les cieux. Donc, vous voyez, jusqu'alors, notre humanité pécheresse, elle s'est dérobée à cette droite à vivre en sa présence. Alors, il y a quelqu'un qui n'a pas dû couper son micro, moi j'ai plein de retours dans la... Et on s'était dérobé à Dieu, voyez, parce qu'on avait refusé l'autorité de son... De sa divinité, le fait qu'il est créateur, quoi, voyez. Et en fait, le Père nous a repris en main par son Fils incarné, voyez, crucifié et ressuscité. Vous voyez, si vous voulez, on était parti loin de Dieu, et par ce mystère de l'Ascension, voyez, Jésus, dans son humanité, maintenant pleinement au ciel, intronisé à la droite de Dieu, après son œuvre, hein, de nous avoir repris en main, eh bien, désormais, puisque Jésus est au ciel, à la droite du Père, c'est notre chair, voyez, c'est notre humanité qui est là-haut, cachée avec le Christ en Dieu, hein, comme dit saint Paul en Colossiens 3:3. Vous voyez, nous avons une tête qui a passé, qui a franchi les cieux, un frère qui désormais est pleinement avec Dieu. Et désormais, c'est à partir de la sainte humanité du Christ, comme l'aime à l'appeler Thérèse d'Avila, c'est à partir de la sainte humanité du Christ que Dieu agit désormais pour nous et qu'il nous sauve à main forte et à bras étendus, pour reprendre une expression du Deutéronome. C'est par cette humanité pleinement glorifiée désormais que Dieu nous bénit, qu'il nous donne toute grâce. Et il n'y a pas d'autre chair, d'autre humanité, vous voyez, de corps et d'âme, que celle du Christ pour nous conduire au ciel. Et c'est pourquoi Jésus nous est donné ici-bas, vous voyez, en nourriture. Et il nous incorpore petit à petit à lui pour nous offrir un jour, au dernier jour, à Dieu, pour que nous soyons immaculés en sa présence, dans l'amour. Ça, c'est une phrase d'Éphésiens 1:4. voyez l'importance de cette chair, de cette humanité qui est en Dieu, qui non seulement est en Dieu, mais c'est par elle désormais que tous les dons de Dieu nous sont donnés. Alors, à vue humaine, à vue trop humaine, notre vie, hein, elle se solde par la mort qui prétend avoir sur nous le dernier mot. Dans une certaine perspective, hein, d'existence, la mort, c'est le dernier mot, hein, qui va clôturer le roman de notre vie ou le poème de notre vie. Mais la résurrection du Christ, vous voyez, a biffé cette conclusion sinistre, elle l'a rayée, en ajoutant une nouvelle page à notre histoire. Vous voyez, et quelle page ! C'est pourquoi, vous voyez, l'ascension, entre autres, hein, c'est la grande fête de l'espérance. Pourquoi ? Parce que nous attendons désormais l'imminence du royaume, de cette patrie qui ne passera jamais, et en même temps, nous l'attendons dans la patience de ce qui dure, hein, notre existence, le monde dans lequel nous vivons. Bon, ça pourrait déjà être une belle définition de la vie ordinaire chrétienne, vous voyez. L'attente de l'imminence du royaume dans la patience du temps qui dure. Vous voyez. Bon. Alors, vous voyez, l'ascension et la Pentecôte nous font lever les yeux vers le ciel et en même temps patienter dans l'attente amoureuse. Cette attente amoureuse qui se manifeste puissamment dans la prière. Mais ce n'est pas simplement une... Il ne s'agit pas simplement de patienter dans l'attente amoureuse, mais en même temps, nous sommes envoyés pour témoigner par toute la terre. C'est ce que disent les anges, que disent les anges à l'ascension. Vous voyez, quand Jésus monte au ciel, les anges disent « Mais restez pas là à regarder. Vous voyez, maintenant, allez annoncer le nom du Christ par toute la terre. » Et donc, notre vie sur terre, grâce à la résurrection, elle est un abandon à l'espérance qui nous ouvre à l'inattendu de Dieu, à sa présence. Il y a comme un dynamisme qui est donné à nos existences, vous voyez, parce qu'avec Jésus qui monte au ciel, Jésus montant au ciel, vous voyez, nous sommes happés, d'une certaine manière, dans cette trouée, dans cet appel d'air, d'une certaine manière, vous voyez, pour prendre une image. Grâce à l'ascension, vous voyez, le paradis s'entrouvre pour notre chair mortelle. Nos corps sont appelés eux-mêmes à ressusciter et une création nouvelle est en gestation. Vous voyez, il faudrait regarder Jésus depuis l'ascension à cette droite de Dieu qui a le pouvoir d'entourer et de préserver, d'épargner et de nous sauver, de maintenir et de garder tous ceux qui se confient en lui. Mes brebis, je leur donne la vie éternelle. Jamais elles ne périront et nul ne les arrachera de ma main. Mon Père qui me les a données est plus grand que tout et nul ne peut rien arracher de la main du Père. Le Père et moi, nous sommes un. Jean 10, 28, 30, vous voyez, on va bientôt fêter le bon pasteur. On peut prendre cet évangile pour la situation de Jésus aujourd'hui au ciel. Vous voyez. Nous lui appartenons. Alors la porte du ciel, la porte de la vie, avec un grand V, vous voyez, est à jamais entrebâillée. Et toute notre vie consiste à doucement la pousser et à mettre notre main dans la main du Christ ressuscité. Bref, vous voyez, le grand miracle de la vie chrétienne, c'est que depuis la résurrection, mourir, c'est naître. Mourir, c'est naître. Nous n'allons plus seulement de la naissance à la mort, vous voyez, en une vie comme dans les dictionnaires, hein, qui se résume comme dans Wikipédia, à une sorte de deux dates dans une parenthèse, vous voyez, où bien tout est clos, vous voyez. Et ben non, avec la résurrection, vous voyez, la parenthèse ne se ferme plus. La résurrection du Christ, son ascension, vous voyez, le don du Saint-Esprit, nous donne à voir cette trouée céleste, si vous voulez, la finalité de toute vie humaine. Alors, comme je vous le disais, hein, cependant, pour naître au ciel, ben, il ne s'agit pas de garder les yeux rivés sur les nuées pour aller voir en acte 1-1, justement à l'ascension, hein, où les apôtres regardent Jésus s'élever dans les nuées. Mais il faut s'offrir à l'action de Dieu. Et c'est ça le paradoxe. Si on ne met pas d'abord les pieds dans le ciel, si on ne met pas d'abord nos racines dans le ciel, on va pas comprendre ce que c'est que cette vie ordinaire. Bon, l'action de Dieu, elle pourrait se résumer en cette phrase de Jean 15-12, hein, que nous connaissons tous, hein, mais qui prend une ampleur particulière. Hein. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Ça veut dire que l'espérance du ciel, hein, qui adviendra pour nous disciples au terme de notre vie sur terre, elle sera la manifestation d'une vie comme le Christ. Une vie portant, vous voyez, sa signature, son style, son esprit. Alors pour continuer dans l'anatomie, vous voyez, la main de Dieu. Donc le Christ, voyez, elle a un doigt, c'est l'Esprit Saint. Et c'est l'Esprit Saint qui va tracer, voyez, dans la poussière de notre péché et de notre mort, dans notre existence, un avenir divin. Et voilà encore l'espérance beaucoup plus forte. Voyez, l'espérance, ce n'est pas simplement de tourner notre regard vers le ciel, mais c'est d'ouvrir nos vies à l'inattendu de Dieu. D'ouvrir nos existences à l'Esprit. Galiléens, pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel d'auprès de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller vers le ciel. Acte 1.11. Vous voyez, ces mots nous invitent, ainsi que les disciples, à ne surtout pas attendre passivement, ni même de nous attendre à quelque chose d'extraordinaire, mais plutôt de nous découvrir, vous voyez, étonnamment attendus de quelqu'un qui vient à notre rencontre, à chaque instant. Dans la monotonie du quotidien et l'invisible du mondain, c'est-à-dire vraiment le métro boulot dodo. Oui. En fait, cette montée de Jésus au ciel, cette espérance, vous voyez, elle est paradoxalement la réception au plus profond de nous-mêmes et de nos vies. De Jésus. Désormais, vous voyez, lui en nous, dans la mesure où nous demeurons en lui. Pour le dire d'une manière encore plus paradoxale, si vous voulez, Jésus nous attire à lui aux cieux en venant à nous, tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Et donc la plénitude de la présence nous est déjà donnée dans l'ordinaire des jours, dans nos vies. À chaque instant, à chaque seconde, si nous ouvrons cette espérance. Ou pour le dire autrement, voyez, c'est parce que Jésus est en nous, parce que nous allons l'accueillir, qu'il va nous tirer, nous élever, nous élancer au fur et à mesure vers notre vraie demeure. Alors, vous voyez, cette voie tracée, cette perspective, cet horizon divin où un bonheur éternel nous attend, eh ben, redonne sens à toute notre marche. Et même parfois quand nous avons des gros coups de pompe existentiels. Mais bien sûr, c'est dans la foi que cette présence déjà là et pas encore définitive de Jésus va se vivre. Vous voyez ce que je voulais simplement manifester. Je ne sais pas si... Je n'ai pas pris de drogue, hein, je vous assure. Mais vous voyez, la vie ordinaire chrétienne et le sens de la vie ordinaire ne peuvent être vécus, je pense, que si nous acceptons la résurrection du Christ et que nous participons déjà de cette vie du Christ ressuscité. Avec ce dynamisme que nous donne cet appel de Dieu à le rejoindre, à vivre avec lui. Mais qui se vit déjà. Alors, de la résurrection à l'incarnation, il n'y a qu'un pas rétroactif vers lequel je voudrais arriver. Mais je voudrais d'abord faire quelques remarques sur peut-être l'expérience du temps que nous vivons. Alors souvent, nous faisons l'expérience de temps que nous appelons fort et qui nous marque, un pèlé, un voyage, une retraite. Nous repartons plein de bonnes résolutions. Et puis voilà que, dans ce que l'on appelle l'ordinaire des jours, toutes nos bonnes intentions volent en éclats. On perd le dynamisme qui nous était donné. Alors, on peut même faire un pas supplémentaire. Vous voyez, avant même que ce temps ordinaire, cette routine de nos existences ne soit un problème pour notre vie spirituelle, elle est déjà en elle-même problématique d'une certaine manière. Que faire de ce temps, de ces actions où, littéralement, on a l'impression qu'il ne se passe rien ? Où les jours se succèdent aux jours ? Métro, boulot, dodo. Alors en ce moment, c'est plutôt maison, visioconférence, dodo. Voilà. Série à dodo, enfin, pas nous, mais. C'est vrai que cette vie où il ne se passe rien, elle est souvent rattachée à l'ennui. Parfois au sentiment de l'inutile, à la morosité. Et la tentation, pour y échapper, vous voyez, c'est de faire absolument quelque chose. Alors, ça peut être la fête, j'y reviendrai. Ça peut être aussi une sorte d'activisme, ou de multiplication des activités, ou de... Alors, c'est vrai que la vie ordinaire aujourd'hui, elle a pas grande cote et on a l'impression qu'elle est plus à fuir qu'autre chose. Alors, c'est le paradoxe puisque c'est la majorité de notre existence. Alors, si on passe le temps à fuir notre existence, ça ne va pas aller. Alors, dans l'Évangile, il y a quelque chose d'assez extraordinaire qui s'opère, c'est que lorsque Dieu se fait chair, lorsque Dieu vient pour sauver toute l'humanité, ce qui n'est pas un petit boulot, quoi, hein, c'est une sacrée mission, on pourrait dire, quand même, sauver le monde entier.
Lorsque le Verbe fait chair,
eh bien Jésus-Christ, il va être avant tout Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth, ça veut dire que pendant 30 ans, eh bien, Jésus va vivre une vie tout à fait ordinaire, cachée aux yeux de tous. D'ailleurs, vous voyez, ça a l'air d'être tellement pas intéressant qu'on dit quasiment rien de ses 30 ans dans les évangiles. Vous imaginez, si on a vu la vie, 30 ans de la vie de Jésus dans les évangiles, avec Jésus se lève, Jésus se brosse les dents, Jésus apprend à prier avec sa maman, Jésus apprend à faire des planches avec son papa. Voilà, bon, hein, ça aurait été un petit peu... ça grandirait extrêmement la Bible, qui est déjà assez longue comme ça, mais alors vous imaginez. Bon, je plaisante. La seule indication qui nous est précisée, c'est que pendant ce temps, Jésus croissait, grandissait en taille, en sagesse et en grâce. Alors, est-ce qu'en méditant sur Nazareth, sur cette vie quand même cachée de Jésus, cette vie ordinaire, est-ce qu'on ne pourrait pas découvrir un peu la signification du temps ordinaire pour nos vies de disciples du Christ? La première question. Un autre point aussi, je viens de vous parler de la résurrection du Christ, et c'est depuis la résurrection du Christ que nous avons un cycle liturgique qui se calque d'une certaine manière sur la vie de Jésus pour nous rendre cette vie contemporaine. Et vous savez bien que cette vie liturgique chrétienne, elle comporte un temps dit ordinaire. Alors, aujourd'hui, c'est le paradoxe, c'est que je vous parle de la vie ordinaire alors qu'on est dans un temps pascal. Donc, c'est la fête normalement pendant 50 jours. Voilà. Et ce temps ordinaire l'occupe largement. Il prend la plupart des semaines de la vie liturgique. Notez quand même que il ne peut y avoir de vie ordinaire que si par moment il y a des temps qui changent de l'ordinaire. On le vit très bien, vous voyez, dans la semaine. Je fais comme vous, je parle toujours du week-end, mais c'est une aberration, vous voyez, parce que nous devrions. Le premier jour de la semaine pour nous, c'est le dimanche, vous voyez, c'est le jour de. Il y a une grande fête toutes les semaines qui est le dimanche. Ou d'ailleurs, normalement, on doit faire autre chose que ce que l'on fait dans la semaine. Donc, c'est une petite parenthèse, mais le dimanche, c'est Shabbat, le Christ est ressuscité. Alors, il faut lever nos yeux vers le ciel. Donc, il ne faut pas travailler le dimanche. Ça montre qu'on n'est pas des esclaves. Le dimanche, ce n'est pas réservé au travail. Le dimanche, c'est réservé à aimer Dieu plus fortement, et puis à aimer notre prochain plus fortement. Donc le dimanche, ça doit être un temps où je vais plus prier et où je vais prendre du temps avec les gens que j'aime. Ma famille, mes amis, ou des gens que je n'ai pas le temps de voir, etc. Et il faut vraiment que le dimanche soit marqué par quelque chose d'absolument différent de cette vie ordinaire qui comporte une pénibilité, une austérité, une morosité, oui. Ça, c'est ce que demande l'Église, hein. C'est pas une lubie du Père Gilles, hein. C'est ce qui est très beau souvent. Enfin, on voit, vous, pour les jeunes filles qui sont présentes, moins pour les garçons. Donc, j'en profite pour tacler, oui. C'est que le dimanche, vous faites belle. Enfin, vous êtes toujours belle, c'est pas ce que je voulais dire. Il faut pas. Mais vous mettez des vêtements de fête, des vêtements de noces. C'est un jour particulier, différent. Bon, les garçons, c'est toujours en blue jean, etc. Pas tout gaz. Mais même les garçons devraient faire un effort. Les prêtres, je vous explique pas, parce que nous, comme on a l'aube, on se dit, bon, c'est pas la peine. Donc, on a la chemise avec le col romain taché, qui a fait les trois jours déjà, tout ça. Bon, bref. Yes. Alors, je voudrais, avec le Père Marie-Eugène, un petit peu revenir sur ce temps ordinaire. Vous voyez, de la vie de Jésus à Nazareth, parce que c'est un thème qu'il a souvent contemplé. C'est un thème qu'il a habité, je pense. Et il a des très belles homélies ou des très belles conférences sur la vie ordinaire, la vie cachée à Nazareth, la vie de la Sainte Famille. Et donc, à partir d'un texte que je prends de lui, on va essayer de mieux percevoir ce qu'est ce temps, comment le vivre, et surtout voir en quoi il est une bénédiction. Mais le lieu aussi d'une épreuve, hein, d'une épreuve de nos libertés. Et puis, je ferai un petit peu de philosophie. Alors, je fais un peu de pub. C'est dans un recueil de textes sur la Vierge Marie du Père Marie-Eugène, oui, qui s'appelle « La Vierge Marie toute mère ». Alors ça, c'est une vieille édition, mais ça a été réimprimé. Voilà. C'est très beau, ça se lit très bien, et c'est très nourrissant. Et il y a une homélie qui s'appelle « Dans l'ordinaire des jours ». Alors, il commence à situer la vie à Nazareth. Alors, c'est très beau, vous voyez, parce que c'est l'alternance que je signifiais. Vous voyez, il commence en disant « Après la joyeuse et lumineuse fête de Noël, après la fête de l'Épiphanie où la lumière brille dans le lointain, avec l'adoration des mages qui montrent à la Sainte Vierge et à Saint Joseph ce que doit être leur fils, après aussi la fête de la présentation au Temple, marquée par les prédictions de Siméon et d'Anne la prophétesse, voici que la Sainte Famille s'enfonce dans l'ombre. » Donc, vous voyez, ça a été la fête, hein, pour Noël, les rois mages, tout ça. Et qu'est-ce qui s'en est passé des choses, des explosions de toutes parts, tout ça, des prophéties, des machins, des bidules. On rentre à Nazareth. Et pour le Père Marie-Eugène, vous voyez, ce qui caractérise d'abord Nazareth, c'est l'obscurité. Ils s'enfoncent dans l'ombre et ils disparaissent. Puis ils disparaissent à Nazareth, ce bourg méprisé, dit-il, où la Sainte Famille va vivre pendant de longues années dans une vie tout à fait ordinaire. Ils disparaissent. Alors cette obscurité, elle est double pour le Père Marie-Eugène. C'est une obscurité spirituelle. Parce que, dit-il, bien qu'ils gardent le souvenir des événements passés et des paroles qu'ils ont reçues, ils ne comprennent pas le sens définitif. Cela leur est caché. Oui, c'est intéressant pour nous aussi parce que on peut avoir eu des certitudes lors d'une retraite, des choses qui nous ont marquées. Puis après, on a l'impression que ça disparaît, que ça s'enfouit. Mais en fait, c'est un appel, vous voyez, à creuser, à méditer tout cela. Et au fur et à mesure, le sens se dévoilera, vous voyez. Mais quand Dieu le voudra. Donc, c'est normal, vous voyez, que la vie ordinaire s'accompagne aussi d'une vie spirituelle obscure, cachée. Nous avons suffisamment eu de lumière pour maintenant nous enfoncer dans l'obscurité de la foi. J'y reviendrai. Ça, c'est important. Donc, une obscurité intérieure. Et le Père Marie-Eugène, il parle aussi d'une obscurité extérieure. Il dit « on ne les connaît pas ». Je vous lis le texte parce que c'est assez beau, c'est assez poétique. « Il n'y a plus le chant des anges, ni l'étoile qui brillait sur la maison de Bethléem, ni de roi mage. Il n'y a plus qu'une pauvre maison, taillée probablement dans le rocher de la colline de Nazareth. Bon, » Depuis, ça a un peu les recherches exotiques. Bon, là, c'est la vie ordinaire. Joseph remplit son rôle de père nourricier, d'artisan. Il sera un artisan du village que l'on vient chercher pour les humbles travaux de la ferme. La Vierge Marie est une femme, une mère de famille. Elle a un enfant qui est certes délicieux, mais ça reste un petit enfant qui se développe comme les autres, qui croit en sagesse et en taille. Et le Père Marie-Eugène pose cette question, est-ce par ce chemin d'obscurité, ce chemin ordinaire, car c'est extérieurement un enfant ordinaire qu'il va devenir le grand roi annoncé et qu'il va réaliser sa mission ? Sa divinité s'enveloppe d'obscurité, tout est obscur. Donc, vous voyez, les relations sociales, on ne les connaît pas. Nous aussi, dans notre vie ordinaire, dans notre travail, etc., eh bien, vous voyez, des fois, on ne peut pas témoigner de notre foi, on voudrait peut-être éclater, etc. Ben non, on est méconnu aussi. On est peut-être moqué même, oui. On est peut-être raillé. Ben c'est ça la vie ordinaire. C'est la vie de Nazareth, oui. Et puis Joseph, il exerce un métier, voilà, il est le père adoptif de Jésus quand il pourrait dire, hey, les gars, moi j'ai l'ange Gabriel qui est venu me voir. Ben non, ça va être un, voyez, le père Marie-Eugène, j'aime bien, ça va, il dit un des artisans du village. C'est peut-être pas le meilleur, c'est peut-être, oui, c'est un des artisans, ils apparaissent pas du tout exceptionnels. Et puis maman, c'est une mère attentive, bah, comme toutes les mamans, quoi. Il y a les soucis quotidiens aussi. Hein, je pense que, vous voyez, l'angoisse que ressentent Marie et Joseph quand ils perdent Jésus et qu'ils vont le retrouver dans le temple, jette un éclairage aussi sur les soucis qu'ils ont pu vivre quotidiennement. Vous voyez, des fois, il n'y avait peut-être pas de travaux, peut-être que l'argent allait manquer, peut-être que des problèmes de famille, vous voyez, des cousins, des oncles, des tantes. Il n'y était pas préservé. Le père Marie-Eugène, il parle même de grisaille de la vie ordinaire. Et vous voyez, ça rejoint ce que je vous disais au début sur cette petite méditation sur l'espérance, sur l'ascension. Le temps ordinaire, c'est le temps où les médiations, vous voyez, se montrent, si vous voulez, les moyens par rapport à la fin. On a l'impression qu'on perd la fin, vous voyez, et qu'il n'y a plus que les moyens, que cette médiation. La fin nous paraît très loin, très obscure. Nous agissons, nous faisons, nous vivons notre vie, mais nous avons l'impression que c'est loin du but, vous voyez, que nous nous sommes fixés ou qui nous est fixé. Ou même que ce but a disparu. Si bien que des fois, il peut arriver que ce que nous faisons nous semble de peu de sens, vous voyez, ou ne plus faire sens. C'est ça la grisaille de la vie ordinaire, à travers la répétition des mêmes choses. Comme je vous le disais, vous voyez, on a l'impression que rien ne se passe. Pourquoi je rabote la même planche depuis des années? Pourquoi se lever tous les matins pour aller en cours? Alors c'est là, vous voyez, qu'il y a un danger où on va chercher l'évasion. Il y a une épreuve pour notre liberté. La vie ordinaire, c'est le temps où les choix que nous avons pris, nous les vivons dans la fidélité. C'est important, vous voyez, hein, quand on agit toujours pour une fin qui va nous apporter normalement une joie, une croissance. Oui. Donc on se pose d'abord et puis on réfléchit à une fin. Et puis, à partir de cette fin, on cherche les moyens de l'atteindre. Moi, je rêve de retourner à New York. Vous voyez, j'ai un but dans ma vie, c'est d'aller à New York. Alors, en ce moment, il ne faut pas trop y aller. Donc ça, c'est une finalité. Vous voyez, j'aurai beaucoup de joie à retrouver la ville, à retrouver des amis, des choses comme ça, par exemple. Et puis après, je vais choisir des moyens. Alors, je peux dire, bah, je peux prendre l'avion, je peux y aller en pédalo, ouais, ou en bateau de croisière. Alors, en ce moment, comme il n'y a pas d'avion, comme il n'y a plus de bateau de croisière, bah, je vais y aller en pédalo tout seul. Oui. Et c'est là qu'il y a un moment qui arrive dans nos vies, qui est de tenir dans le choix du moyen. Et ça, c'est l'épreuve de notre liberté. Je pense qu'un exemple qui peut parler à tout le monde, hein, c'est le mariage. Voilà. Je voulais me marier. Un jour, Cunégonde est apparue dans un halo de lumière et de grâce. Je me suis dit, ah, avec elle, je vais aller à la sainteté droit dans le ciel. Et donc, je décide de l'épouser. Et au bout de 5 ans, de 10 ans, voyez, ben, j'ai à refaire tous les jours le choix de Cunégonde. Et c'est l'épreuve de la liberté. Parce que je découvre que Cunégonde, ben, elle sent mauvais des pieds, elle vieillit, elle radote, elle a des tics, la grâce ne la transforme pas comme je le voudrais. Voilà. Bon, Cunégonde dit la même chose de Gaston, hein, ne vous inquiétez pas. Alors, vous voyez, on pourrait avoir le choix de partir, de faire autre chose, etc. Mais non, on va tenir. Et puis, il y a l'obscurité de Jésus lui-même, hein, comme je vous l'ai dit. Vous voyez, Jésus apparaît comme un enfant. Le Sauveur lui-même apparaît comme un enfant normal. Vous voyez, rien d'extraordinaire. Vous voyez, à la différence des évangiles apocryphes, hein, si vous avez plongé dedans, bon, c'est des textes qui existent, hein, qui viennent de traditions gnostiques. Vous voyez, bon, il y en a un qui est très célèbre, où il y a Jésus, il joue avec ses petits camarades, et puis tout d'un coup, il y a de l'argile, il prend de l'argile, hop, il fait des oiseaux en sculpture, et il sculpte des oiseaux à travers cette argile, il souffle sur l'oiseau en argile, et l'oiseau devient vivant, il s'envole. Et ça récrée tous les petits garçons et les petites filles qui sont autour de lui. Bon, ben, il n'y a rien de cela, oui. Alors pour nous, c'est aussi important, et c'est que Jésus peut être obscur aussi dans notre vie ordinaire. L'obscurité de Jésus. Après peut-être avoir eu des grandes expériences ou des certitudes, voyez, eh bien, il faut vivre avec un Jésus qui n'a pas l'air de trop se manifester. Et pourtant, je l'ai prié, pourtant, je lui ai demandé conseil, et j'ai l'impression que ça ne bouge pas, et que je suis même dérouté, etc. Et puis aussi dans ce texte, il faut que j'avance, parce que ça fait déjà longtemps, il y a l'obscurité de l'avenir. Nous ne savons pas ce que sera fait demain. Et donc la grisaille de la vie ordinaire aussi, c'est ça, c'est d'avancer. Nous aussi, vous voyez, sans avoir une lumière qui projette sur... après-demain, ou dans 15 jours, ou dans 6 ans. Voilà. Vous voyez une super conclusion du Père Marie-Eugène, la grisaille de la vie ordinaire enveloppe tout, voilà. C'est ça la vie ordinaire. Il n'y a plus rien, c'est ça la vie ordinaire. Il ne se passe plus rien, voyez. C'est ce que je vous disais au départ. Vous avez encore un peu de temps ou pas? Oui. Ouais. Bon, alors je voudrais faire une petite parenthèse. Vous voyez, cette nuit, vous voyez, cette obscurité, cette grisaille de la vie ordinaire, eh bien, elle semble rejoindre un peu notre époque dans ce qu'on appelle le nihilisme. Le nihilisme, voyez, c'est une sorte d'interrogation, de constat de la question de notre existence comme telle au sein de la temporalité comme telle. Vous voyez, le mystère de la vie ordinaire, c'est le mystère du temps, en fait. Alors, je ne résiste pas à faire quelques petites incursions philosophiques, mais vous allez voir, très simple. Comment dire, d'une autre interprétation du temps ordinaire, voyez, après pour mieux y revenir, voyez, qui n'est pas chrétien, mais qui est ce qu'on appelle le nihilisme. pour le nihilisme, si vous voulez, le temps ordinaire, c'est un temps qui est insignifiant, qui ne fait pas sens. Et donc, si tel est le cas, vous voyez, il faut s'en échapper. Alors, comment c'est arrivé, vous voyez, que, d'une certaine manière, nous détestions notre existence ordinaire? Est-ce qu'il y a des symptômes, vous voyez? Alors, oui. Il me semble, vous voyez, par exemple, que une vision trop technique de la réalité, à cause de l'évolution des sciences et de la technique, a réduit le monde à ne plus être que le faire-valoir de l'homme. Ce n'est pas une critique de la technique, hein, vous voyez, on s'en sert, c'est génial, ce soir on se retrouve. Mais, d'une certaine manière, vous voyez, les valeurs qui dominent à cause de cela aujourd'hui, vous voyez, c'est l'efficacité, la performance, tout ce qui ne correspond à rien de notre vie ordinaire. Vous voyez. Et puis, vous voyez, cette espèce d'arrachement à la nature, d'une certaine manière, qui n'est plus qu'un matériau dont je peux me servir pour créer des ordinateurs, des fusées, des choses comme ça. Vous voyez, un monde qui est empli de l'homme, en fait, vous voyez, nous fait perdre aussi le sens de ce que c'est qu'une croissance, d'une germination, vous voyez. Qui d'entre nous a déjà semé du grain, vous voyez, a vu cette espèce de choses disparaître dans la terre et y rester pendant des mois pour un jour sortir, vous voyez, voir ce miracle, une petite pousse, voyez, le sens de la croissance, du temps d'une croissance. On n'y a plus généralement beaucoup accès, voyez. Ce à quoi on a accès, c'est à des boutons qui nous donnent tout de suite l'information. Voyez. Il n'y a plus de croissance, il n'y a plus de temporalité. Il y a un devenir, voyez, mais il y a un devenir qui n'est plus une croissance, c'est-à-dire qui mène vers une finalité. Et donc, vous voyez, ça génère une sorte d'homme nouveau. C'est à grands traits, hein, c'est pas. Où l'homme, vous voyez, doit maîtriser les choses. Il met la main sur toute chose, vous voyez. Et du coup, vous voyez, le nihilisme, cette espèce d'insignifiance du temps, elle est liée à une sorte de volonté de puissance de l'homme. Plier le monde à ma volonté, vous voyez, plier les autres à ma volonté. D'ailleurs, le Covid, c'est intéressant ce qu'il nous a. Bon, il ne faut pas que je passe pour j'aurai jamais le temps de. Et donc, vous voyez, il y a une sorte d'autonomie, de maîtrise de soi, d'indépendance, où l'homme se veut maître du monde et maître de lui-même. Bon, ça fait un peu grandiloquent, mais. Mais vous comprenez l'idée, oui. Alors, jusque-là, tout va bien. Mais voilà que cet homme qui veut tout maîtriser, vous voyez, il fait ou il continue de faire l'expérience du temps. Or, le temps, c'est vraiment le comment dire. Vous voyez, nous maîtrisons extraordinairement bien l'espace avec nos GPS, avec nos routes, avec nos maisons, tout ça. Vous voyez, l'espace, l'homme le maîtrise excellemment bien. Et c'est ce qui lui donne cette impression de maîtrise sur le monde, de domination. Mais le temps révèle notre impuissance, en fait. Et parce que le temps, ça passe. Vous voyez, je ne peux pas le maîtriser. On ne peut pas stopper le temps. On ne peut pas stopper notre vieillissement. On ne peut pas stopper notre existence. Vous voyez, que les choses se figent. Tout passe, tout casse, tout lasse, comme dit Corneille dans Surena. Et donc, vous voyez, c'est là où je pense qu'il y a un ressentiment de l'homme aujourd'hui. Vous voyez, c'est par rapport justement à cette appréhension d'un temps vide, insignifiant, sur lequel il n'a aucune maîtrise. Et vous voyez bien que Le transhumanisme, par exemple, quelle est la volonté du transhumanisme? C'est de faire un homme immortel, c'est-à-dire finalement qui pourrait échapper au temps par sa maîtrise. Bon. J'aurais des choses à dire là-dessus, mais ce sera pour une autre fois. Et donc, vous voyez, comme il n'y a plus d'éternité, c'est pour ça que j'ai commencé par cette méditation sur l'ascension, comme il n'y a plus d'éternité, c'est l'éternité qui donne un sens au temps et qui éclaire la signification de nos existences, et notamment ce temps vécu dans la vie ordinaire. Et bien, puisqu'il n'y a plus d'éternité, vous voyez, le temps devient quelque chose d'absolument... il mène au dernier mot, finalement, qui est la mort. Il faut s'en échapper, quoi. Il faut s'en sortir à tout prix. Voilà. Donc, vous voyez, l'expérience que l'on peut faire du temps, en tout cas dans un temps nihiliste, c'est qu'il nous échappe. Tout ce qui arrive, tout ce que nous pourrons faire disparaîtra dans le passé, etc. Et donc, du coup, qu'est-ce qui se manifeste à l'homme dans ce temps qui lui échappe? C'est le néant. Vous voyez. Bon. Il n'y a rien à attendre, il n'y a pas de promesse. Bon, je passe. J'aurais des choses encore à dire, mais. Et alors, vous voyez, bien souvent, la vie, du coup, va être vécue sous le mode du remords ou du ressentiment. Le passé va être souvent vécu sous le mode du remords, vous voyez, du ressentiment. Parce que le passé est passé, vous voyez. Le présent, il va être vécu sur un mode de l'insatisfaction permanente. Et l'avenir, il va être vécu comme une angoisse lancinante. Et donc, du coup, vous voyez, la vie quotidienne, la vie ordinaire, c'est une vie qui s'écoule dans une indifférence vide, vous voyez, ennuyeuse, dénuée de sens. Nietzsche, il avait une grande expression, il parle d'une grosse mude, une grande fatigue. Il n'y a rien, il ne se passe rien. Je ne sais pas si ça a un sens avec les dépressions ou les choses comme ça, vous voyez, mais c'est intéressant. Donc, du coup, le sens, ma vie, en tout cas, soit je vais devoir m'en échapper, donc ça va être, soit il va falloir que je puisse l'élaborer d'une autre manière. Et donc, ça va être souvent dans la recherche d'expériences extraordinaires ou dans le plus grand nombre d'événements possibles, vous voyez, s'enivrer, vous voyez, de choses à faire, et puis de les faire sous un mode, comment dire, excessif, en tous les cas, marquante. Je vais vous prendre, mais vous savez, ça arrive dans le quotidien. Je vais vous montrer un petit exemple que j'avais trouvé. J'avais trouvé ça très drôle, que j'ai trouvé. Où est-ce que c'est ça? J'ai perdu ma feuille. Mon Dieu. Alors, je voulais vous parler d'un shampoing. Où est-ce que c'est passé ça? Ça ne va pas du tout. C'est pas grave, on s'en passera. Ah si. Vous voyez, en fait, c'est de vivre des événements extraordinaires, ou en tous les cas, faire que tout ce que nous allons vivre soit marqué d'une expérience subjective, vous voyez, étonnante ou vraiment incroyable, etc. Donc, j'avais trouvé un exemple, alors ça m'a fait marrer, vous voyez, c'est un savon. Et on se lave tous les jours, la vie ordinaire. Enfin, je parle pour les filles, les garçons, je ne sais pas, mais normalement, on se lave tous les jours, donc on utilise un savon. Vous voyez. Le savon, on s'en sert parce que ça a une efficacité, ça nettoie. Alors, après, ouais, on nous a présenté un savon parfumé, etc. Vous voyez, un jour, il y avait le savon. l'accroche était « il flatte votre peau ». Réfléchissez à ça, un savon qui flatte ma peau. Donc, c'est vraiment vivre n'importe quoi, même les choses les plus banales, les gestes les plus quotidiens, comme si tout d'un coup, ça devenait une épiphanie, un acte extraordinaire. Donc, le savon flatte ma peau. Donc, quelle expérience ! Bon, et puis alors, on pouvait multiplier ça avec tout ce qu'on fait, tout ce qu'on va nous présenter va devenir quelque chose d'extraordinaire. Voyez. Hein, toute la vie ordinaire devient une sorte de mise en scène, voyez, dans lesquelles, voyez, tout ce que nous faisons doit être over the top, etc. Et tout cela pour se percevoir soi-même. Finalement, voyez, on essaye de faire, d'une certaine manière, du quotidien, une fête perpétuelle. Et c'est là que ça ne marche pas, parce que voyez, la vie liturgique nous l'apprend, et c'est pour ça que j'insistais sur le temps, c'est qu'il ne peut y avoir de vie ordinaire que si parfois il y a des moments de fête. Mais quand on fait de tout une fête, eh ben, voyez, on est bien dans l'insignifiance. C'est-à-dire que si tout est une fête, ben, plus rien ne compte, en fait, plus rien n'a de sens. Parce que me laver avec un savon ou épouser Cunégonde, bah finalement, il faut que ce soit « waouh ». Et du coup, bah, tout devient insignifiant, quoi. Alors, j'ai encore une troisième partie, je peux le faire ou pas ? Oui, tout petit, ah mince, alors bon, alors je saute, alors je vais aller à l'essentiel. Donc vous avez compris, nous vivons le chrétien vit le temps ordinaire d'une manière fondamentale parce que Jésus est entré en lui. Et qu'est-ce qui se joue dans la vie ordinaire par rapport à Jésus, vous voyez, c'est que Jésus, dans nos vies, ça n'a pas d'abord été, ou ce n'est pas une idée, ce n'est pas un concept, ce n'est pas une belle philosophie, c'est une personne que l'on a rencontrée ou qui nous a rencontrés. Et le temps ordinaire pour nous, c'est le temps, l'épreuve que nous avons à vivre dans le temps ordinaire par rapport à Jésus, vous voyez, c'est l'épreuve de notre fidélité, c'est l'épreuve de la foi. C'est une fidélité de foi qui ne sera pas vécue, vous voyez, sous le mode de l'expérience subjective. Notre relation à Jésus est une relation à Nazareth. C'est le sens aussi profond de la vie cachée de Jésus à Nazareth pendant 30 ans. Hein, si Jésus a passé 30 ans à Nazareth, c'était bien pour nous montrer, oui, c'est une manifestation de son incarnation, que Jésus est vraiment homme, qu'il est vraiment une personne divine, et pas une idée, pas une doctrine, pas un maître de sagesse, voyez. Il nous montre aussi, voyez, Nazareth, la vie de Nazareth nous montre que, avant d'être un message, notre foi, enfin notre adhésion est une adhésion à une personne. Et donc, cela nécessite, pour connaître cette personne, pour l'aimer, une croissance. C'est la vérité de l'incarnation, et c'est la vérité de notre foi. La vie ordinaire chrétienne, c'est l'approfondissement sans cesse que nous vivons, que nous nous attachons à une personne, et cela demande du temps pour la connaître, pour l'aimer, pour la fréquenter. Et cette fréquentation, elle n'est pas forcément et rarement, vous voyez, dans l'extraordinaire d'une présence ressentie, etc. Vous voyez, et l'épreuve va être là, c'est la foi, bien sûr. C'est la foi. C'est l'exercice de la foi. Vous voyez, le temps ordinaire, c'est pour nous l'exercice de la foi. C'est-à-dire qui touche Jésus, qui s'en remet à Jésus à chaque seconde, à chaque instant, dans tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous vivons. Alors, je n'aurai pas tout le temps de dire, mais... Et c'est le moyen aussi d'échapper au nihilisme du temps ordinaire. Oui. C'est-à-dire, c'est le langage de l'amour. Vous voyez, il y a quelque chose de mystérieux dans l'amour. C'est que l'amour, il est en même temps répétitif, sans être routinier. Si nous vivons vraiment d'amour, il est répétitif sans être routinier. Et seul l'amour peut transformer nos habitudes en fidélité. Et vous voyez, au cœur de notre vie quotidienne, il y a une prière quotidienne. Alors moi, comme j'aime l'oraison, je vais parler de l'oraison. Et il y a une pédagogie de la prière qui se manifeste bien à travers l'oraison, mais qui est le lieu de toute prière, c'est la répétition. Pourquoi ? Parce que la prière, vous voyez, loin d'user notre regard, loin d'user notre goût, elle vise à accentuer notre sensibilité aux choses de Dieu. La répétition, vous voyez, de la prière, qui est en fait un acte d'amour, vous voyez, c'est elle qui va nous faire sentir et goûter intérieurement, mystérieusement, l'émotion de l'Esprit-Saint. Et puis, dans cette répétition de la prière, vous voyez, le discours va s'éteindre, les facultés vont s'apaiser. Non pas pour sombrer dans l'insignifiance, mais pour nous faire acquérir une simplicité de cœur. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, vous voyez, de notre attachement à Jésus, de foi amoureuse, hein, quotidienne, elle va nous révéler le secret de l'amour. Et c'est quoi le secret de l'amour ? Eh bien, j'emprunte ça à Pascal, le philosophe, dans une pensée. Pascal disait « Faire les petites choses comme grandes à cause de la majesté de Jésus-Christ, qui les fait en nous et qui vit notre vie, et les grandes comme petites et aisées à cause de sa toute-puissance. » C'est beau, hein ? Faire les petites choses comme grandes à cause de la majesté de Jésus-Christ qui les fait en nous et qui vit notre vie. Et les grandes, donc faire les grandes choses, hein, comme petites et aisées à cause de sa toute-puissance. voyez, parce que Jésus est entré dans chacune de nos histoires, tout devient moyen pour aimer. On peut faire feu de tout bois, même si c'est la brindille de la vie ordinaire, ou ce bois calciné qui nous semble de la vie ordinaire. Et je prends deux exemples de saints, hein, par rapport à cette phrase de Pascal. Thérèse de l'Enfant Jésus, hein, savait que ramasser une épingle qui traîne dans son couvent par amour peut sauver une âme. Faire les petites choses comme faire les petites choses comme grandes, oui, à cause de la majesté de Jésus. Et Saint François Xavier, pouvait pour la même raison mettre en branle la cour du Portugal et s'élancer à l'autre bout du monde. Oui, choisir tout, en fait. Alors, je voudrais terminer pour la boucle. Comme je vous disais, il est arrivé quelque chose au temps ordinaire depuis que Jésus est entré en lui. Jésus, hein, est venu sauver le temps aussi. Sauver le temps ordinaire et de la morosité. Et pour nous, cela se manifeste le plus magnifiquement, je pense, dans l'Eucharistie. Jésus, il choisit le geste le plus répétitif et le plus banal de nos existences, qui est celui de manger et de boire. Et à travers ses moyens les plus modestes, mais aussi les plus nécessaires, il va y enfouir l'acte le plus inédit, le plus chargé de sens et de finalité, le seul acte capable, vous voyez, d'ouvrir l'histoire au-delà de la mort, comme je vous le disais au début, vous voyez, c'est-à-dire l'amour jusqu'à l'extrême, le don de soi jusqu'à la croix. Vous voyez, dans ce geste le plus répétitif et le plus banal, Jésus va y mettre l'acte le plus grand de toute l'histoire, sa mort, sa vie, sa mort, sa passion, sa mort et sa résurrection. Et donc, vous voyez, il livre, bon là j'aurai encore plein de choses à dire, mais vous voyez, cet acte unique de l'événement de la Pâque, qui a eu lieu une seule fois dans l'histoire, qui ne se répète pas, enfin, comme événement temporel, ne devrait pas se répéter, vous voyez, puisqu'il a été vécu, il est passé. Vous voyez. Cette heure entre toutes les heures, eh bien, vous voyez, il nous le livre à l'ordinaire des jours, dans la répétition sacramentelle. Donc le temps pour nous, aujourd'hui, il est désormais, pour un chrétien, le temps, il est structuré de manière définitive selon l'avant et l'après de la Pâque du Seigneur. Passion, mort et résurrection. Et vous voyez, et Jésus-Christ a vécu l'ordinaire du temps comme l'ordre même de l'amour, voyez, en son infatigable redondance. Parce que vous savez que dans l'acte eucharistique, en fait, sont concentrés tous les événements de la vie de Jésus, et même, et donc ses 30 ans de vie ordinaire. Voyez. Et qu'est-ce qu'il nous montre? C'est que dans ce temps ordinaire, Jésus nous aimait déjà. Jésus nous sauvait déjà à travers le moindre geste qu'il posait. Et tout ça nous est redonné dans l'Eucharistie. Et donc, et tout ça nous signifie que l'ordinaire de notre temps, nos vies ordinaires, nos petits boulots, nos trucs comme ça, elle est transfigurée. Et donc, d'une certaine manière, vous voyez, il s'agit désormais, comme dirait Saint Jean de la Croix, de tout mettre en exercice d'aimer. Tout, vous voyez, l'ensemble de ces médiations que nous vivons. Prendre le bus, faire de la politique, construire des maisons, aller soigner des gens, enseigner, faire la popote. Tout, vous voyez, tout peut devenir un moyen de répéter d'une certaine manière cette vie cachée de Jésus. Voyez. Et donc, vous voyez, Le temps ordinaire, la vie ordinaire, le métro-boulot de dos devient le lieu et le temps de faire d'Eucharistie nos existences. C'est-à-dire cette présence de l'amour en personne qui transforme, qui transfigure nos existences, voyez, pour que nous fassions de nos vies un don eucharistique. Voyez, nous ne sommes peut-être qu'un peu de pain, nous ne sommes peut-être qu'un peu de vin, mais unis à Jésus, présents à Dieu, le Seigneur, par la puissance de son Esprit-Saint, eucharistie nos vies, les transfigure et leur donne tout leur sens et toute leur saveur, et fait de nous déjà des porteurs d'éternité. Dont les fruits, bien souvent, nous échappent. Nous qui sommes, vous voyez, qui nous voulons de l'efficacité, de la performance, ce qui nous rend difficile parfois notre vie ordinaire ou cette grisaille de notre vie, c'est que nous ne voyons pas la fécondité que ces vies ont. Et si vous avez été à la messe aujourd'hui, ou si vous avez lu les lectures de la messe, et je terminerai par là. Eh bien, vous avez un magnifique modèle dans Étienne. Aujourd'hui, c'était le martyr d'Étienne. Étienne qui meurt, voilà, lapidé, donc comme Jésus qui demande pardon, etc. Et vraiment, il imite Jésus, il est devenu un autre Christ, vous voyez, par son style de vie, son style eucharistique, lui aussi, il donne sa vie. Et vous savez bien qui est là ? Il y a Saul, il y a Paul qui est là. Et qui se réjouit de ce meurtre. Eh bien, voyez, la fécondité de la vie d'Étienne, c'est la conversion de Paul. C'est ça que veut nous dire le texte, puisque après, il va y avoir la conversion de Paul. La fécondité de la vie donnée d'Étienne, qu'il ne verra pas, qu'il n'a aucune idée, c'est la conversion de Paul, qui va devenir l'apôtre des nations. Alors, vous voyez, nos vies ordinaires, nos vies quotidiennes, unies à Jésus, elles ont un poids d'éternité et elles ont une fécondité inimaginable. Mais dans la foi, c'est-à-dire, n'oubliez pas, dans l'obscurité et dans la grisaille. Voilà. Eh bien, je vous trouve bien patient. Hein, comme je ne vois pas la moitié des visages. Voilà. Bon, bah, écoutez, merci beaucoup pour votre patience.
Merci, Patrick. Tout le monde s'est endormi merci avant.
Oui, j'ai l'impression, ouais, parce qu'on ne voit plus personne. Alors, tout le monde s'endort, en fait, c'est sûr. C'est sûr, tu peux faire.
Tout monde, ils ont tous coupé la caméra parce qu'ils dorment.
Et bah, oui, c'est ça. Oui. Ils regardent autre chose.
Si vous voulez poser des questions, allez-y.
Moi, je voulais juste.
Il faudra mieux.
C'est Dominique.
Ouais, Dominique.
Oui, je me suis trompée. ça me fait penser en fait à Élie quand Dieu lui parle à travers la douce brise. Enfin, c'est un peu l'Esprit Saint en fait. Tout ça aussi, c'est tout est ouais. dans la discrétion. Enfin, dans le calme et dans la paix en fait. C'est un peu. Enfin, ça m'a fait penser à ça. Donc, je sais pas, je voulais partager. Je pense que c'est ça, en fait. C'est l'Esprit Saint qui est dans la vie ordinaire aussi.
Ouais. C'est très beau ce que tu dis, parce que quand tu regardes la vie d'Élie, il y a une sorte de... C'est quand même... Il a fait des actes de puissance, etc. Il a égorgé les prophètes, il a fait tomber la flotte, enfin... Il a réanimé un enfant, il a nourri la veuve de Sarepta avec presque rien. Et pourtant, ce n'est pas le plus important ouais, dans la vie d'Élie. Ouais. D'ailleurs, lui-même, après, il connaît cette espèce de marche au désert où il est nourri hein, mystérieusement. Et c'est vrai que la grande rencontre avec Dieu, c'est à l'Horeb, ouais, et c'est dans le silence, et non pas dans le tonnerre ou dans... Oui, c'est une très belle image en fait. Dieu ne se manifeste pas dans le tonnerre, dans le tremblement de terre ou dans le feu, mais dans la voix d'un fin silence. En fait. Oui, je trouve que c'est très beau. Ouais. Et c'est tellement dur, hein, c'est tellement dur d'accepter ces existences. Quoi. Nous, on voudrait le tremblement de terre, l'ouragan, etc. Quoi. Et on a peur de la répétition, on a peur de la... c'est normal. Hein, et enfin, en même temps, c'est je crois que c'est une voie obligée de la croissance de la foi et de l'amour, comme je vous le disais. Oui.
Bah, en effet, pour des grandes choses, mais des grandes choses dans l'amour, en fait.
Voilà. Et comme dit, et vous voyez, c'est beau parce que je trouve que la phrase de Pascal est extraordinaire et tous les saints nous le montrent. C'est-à-dire, moi, il y a un exemple que j'aime beaucoup, c'est Bernadette de Soubirous. Il faut lire une... Enfin, c'est une sainte extraordinaire, Bernadette de Soubirous. Alors, on ne retient que les apparitions de la Vierge Marie, mais après, elle a toute sa vie de religieuse, etc. Et c'est extraordinaire, elle a une phrase, à un certain moment, elle dit, « Mais voilà, moi, je suis comme un balai. Quand Dieu en a besoin, il me sort, et quand il n'en a plus besoin, il me met dans un placard. » Et vous voyez, je trouve, voilà, c'est une image, mais c'est très puissant. Elle a un sens de la vérité extraordinaire. Et c'est ça, vous voyez, on me demande une petite chose, je fais une petite chose, je fais la vaisselle. Et puis un jour, c'est une grande chose qu'il faut faire, mais je la fais. Mais vous voyez, l'important, bah, c'est de le faire en acte d'aimer, quoi, vous voyez, dans un acte eucharistique. Parce que je sais que tout ce que je vis, si c'est uni à Jésus, ça porte du fruit, ça sauve le monde. Et comme je pense que Jésus, c'est quand même pas le maître de l'extraordinaire, la plupart de nos existences sont faites de quotidien, de brouillard, etc. Il faut se méfier aussi parfois des vies de saints, parce qu'on ne montre il y a une sorte de révélateur, donc on voit que... mais on oublie que François-Xavier, avant d'aller en Inde ou en Chine, il a pris le bateau, c'était des semaines de navigation, il n'y avait pas grand-chose à faire dessus. Quoi, hein, donc, il devait manger, il devait pêcher, il devait se laver, je ne sais pas trop, mais oui, il devait lire les Écritures, il devait faire son bréviaire, une vie ordinaire. Quoi.
Il y est allé en pédalo ?
Alors, à l'époque, non, parce que les pédalos n'existaient pas à cette époque. Mais c'est d'autant plus dangereux.
Héberger, vous avez lié l'ordinaire et la vie d'oraison. Et vous voulez apprendre à habiter sa vie ordinaire, ça nous apprend aussi pour notre vie de prière et inversement.
Oui, et inversement, oui. Ouais. Ce que je voulais dire, c'est que l'oraison, comme c'est la l'oraison se manifeste particulièrement par un acte de répétition où justement il ne se passe rien. Enfin, quand il se passe des choses, ce n'est pas vraiment les choses qu'on voudrait. C'est-à-dire qu'on a l'imagination qui part en cacahuète, on est mal assis, on s'ennuie, etc. Donc on vit, en fait, mais en même temps, comme il y a cet acte de foi, cette attention à Jésus, ben, il y a une union qui s'opère, il y a une transformation qui se réalise, mais dans la grisaille. En fait.
Je me demandais, Père Gilles, moi, pour affronter la vie ordinaire, la grisaille, Si l'exemple de Marie qui revient chercher Jésus à Jérusalem, elle dit à la fin, elle ne comprenait pas ce qu'il disait, mais elle méditait tout dans son cœur. Enfin, je me suis demandé si la méditation était comme une.
Bien sûr, bien sûr.
Et puis j'avais aussi, j'avais noté un deuxième truc aussi qui pourrait aider à traverser la grisaille. Quand vous dites que la vie ordinaire est une croissance vers un but, comme une germination. Et une croissance tellement lente qu'on croit qu'il ne se passe rien, mais si on fait attention et qu'on écoute, on verra sûrement que ça pousse. En fait, il suffit juste entre, enfin, est-ce qu'il suffirait juste d'écouter pour voir que ça pousse un peu en fait et qu'il ne se passe pas rien.
Merci Patrick. Bon, en fait, il y a plein de choses qu'il faudrait. Alors, je voudrais dire deux choses. La première, c'est que tu as tout à fait raison. C'est le problème de la lectio divina, de lire la parole de Dieu. C'est ça. Marie méditait toutes ces choses dans son cœur. En fait, elle symbolisait, c'est-à-dire tous les événements qu'elle voyait, elle les méditait, elle les pensait, elle les habitait, vous voyez. Et petit à petit, sûrement se découvrait. Vous voyez. Il en est de même dans ce très bel exercice qui est la lecture de la parole de Dieu quotidienne. Pourquoi on abandonne rapidement ? On prie l'Esprit Saint, on lit le texte, on se dit « je vais avoir des lumières fantastiques » ou « je vais avoir une parole de Jésus, ça va être pour moi », etc. Et en fait, qu'est-ce qui se passe ? Rien du tout. Ben parce que l'exercice de la Lectio Divina, lu dans la foi, c'est un exercice, comme tu disais très bien, de rumination, d'imprégnation progressive de nos mémoires, de notre imagination, de notre cœur, où bien souvent, ben, on ne comprend pas, ou le texte ne nous parle pas, etc. Comme Marie, effectivement, elle n'avait pas la lumière sur tous les événements, mais sans cesse, elle habitait la parole, elle habitait les événements, et petit à petit, le sucre s'en dégageait, etc. Et ça me permet aussi, de par rapport à ta seconde réflexion, Patrick, vous voyez, il ne faut pas perdre aussi que, c'est pour ça que j'ai insisté sur le rythme aussi, vous voyez, on ne vit pas que du temps ordinaire. Il y a aussi des temps de fête. Hein, comme le temps liturgique le montre, il y a le temps ordinaire, mais il y a des temps de fête et il y a des temps de jeûne, etc. Vous voyez. Donc, je ne crois pas que le Seigneur va nous laisser, vous voyez, au niveau de la révolution spirituelle, 40 ans, vous voyez, dans une nuit noire, etc. C'est-à-dire que des fois, hop, il y a quelque chose qui se manifeste. On voit quelque chose ou quelque chose se découvre à nous, ou on sent qu'on a franchi un pas. Il y a quelque chose est plus apaisé, quelque chose. Même, vous voyez, par rapport à une vocation, ou même quand vous avez votre travail, vous voyez, il y a eu le temps des études qui était un temps particulier, puis tout d'un coup, voilà, il y a quelque chose, on a un diplôme, on entre dans la vie du travail. Alors, c'est un nouveau bouleversement qu'il va falloir vivre, et puis on va rentrer dans une nouvelle vie ordinaire, vous voyez, mais la vie est rythmée. Il y a un rythme. Et ça, c'est voulu par Dieu, depuis toujours.
Et ça, est-ce que ce sera un peu aussi le rythme de... Enfin, je termine juste là-dessus, hein. Après, je rends la parole. Mais quand vous disiez au début, les apôtres qui restent devant les qui regardent Jésus en l'air, et les apôtres, les anges disent aux apôtres, que faites-vous, qu'attendez-vous, alors que Jésus venait justement de leur dire... aller par toutes les nations, enfin, il les appelait, et les apôtres, entre guillemets, ils restent dans l'appel, et ils ne vont pas dans l'action, entre guillemets, enfin, ils veulent rester dans l'appel, alors que les anges disent, allez-y, il faut s'offrir à l'action de Dieu, comme vous disiez,
c'est ça. Rythme. C'est ce que je voulais montrer, en fait, c'est le sens, ce chemin de l'éternité, vous voyez, qu'on est fait pour Dieu, C'est lui qui éclaire toute notre vie ordinaire. En fait.
Okay.
Mais c'est vrai qu'on a l'impression qu'au début, je crois que c'est dans Luc. Non, c'est pas dans Luc, ça doit être dans Matthieu, où on a l'impression que les apôtres, ils restent comme ça. Quoi. Et puis, ils ont dit, non, mais il faut y aller maintenant. Et on voit bien que l'ascension, c'est ça. Quoi. C'est une présence qui Jésus est parti, mais parce qu'il y a cette trouée, vous voyez, vers l'éternité, en fait, il y a une nouvelle présence de Jésus beaucoup plus profonde dans le cœur des disciples, qui est une présence amoureuse, donc qui appelle à la contemplation, si vous voulez, à la contemplation, à la prière, à l'intériorisation, et en même temps, qui appelle à la mission, à partir, à y aller.
Merci.
Mais ma mission, c'est d'aller au travail. Voilà, c'est ça. Peut-être que des fois, vous voyez, on a ce fantasme en se disant « Mais qu'est-ce que je fous tous les jours à faire mes cours de maths à mes étudiants qui n'ont rien à faire, alors que je pourrais peut-être aller sauver des enfants au fin fond du Bangladesh ou de l'Afrique. » Mais ce n'est pas ce que Dieu demande. Et vous n'oubliez pas la phrase de Pascal. Ça a autant de valeur ce que faisait Mère Teresa que ce que tu peux faire simplement en allant faire des courses.
Père Gilles,
oui.
Vous avez dit tout à l'heure que Jésus nous sauvait, enfin en gros en vivant sa vie ordinaire, je crois, Jésus nous sauvait, ou enfin
oui.
Voilà.
Oui.
Enfin, moi, c'est un truc que j'ai entendu des tonnes de fois, mais j'ai toujours pas compris pourquoi. Enfin, le fait qu'il nous sauve en vivant sa vie ordinaire, c'est parce qu'il vient habiter ce temps-là et que du coup le temps est sauvé par le fait que l'amour le vive et que tout peut être vécu par amour, ou est-ce qu'il y a autre chose? Enfin, c'est quelque chose qui n'est pas très clair pour moi.
Alors, je ne sais pas si je comprends bien ta question, mais voici comment je répondrai. Jésus, par son union hypostatique, le fait qu'il est vrai Dieu, que Dieu s'est fait chair, qu'il s'est vraiment fait homme, il exerce une médiation, mais qui est double. Donc, par Jésus, il y a une médiation qui est descendante, c'est-à-dire, par Jésus, les dons de Dieu nous sont venus. La vie, la grâce, le salut, par la connaissance, par la grâce de Dieu. Mais Dieu n'a pas voulu, c'est ça la grandeur aussi, et c'est premier, c'est cette médiation-là, elle est la plus fondamentale, etc. Vous voyez, c'est l'Eucharistie. L'Eucharistie, c'est une médiation, je reçois la vie de Dieu. C'est une médiation descendante, c'est-à-dire nous recevons les dons de Dieu. Mais l'humanité de Jésus n'est pas un simple instrument dans la divinité, dans l'union à Dieu. Vous voyez, elle est une vraie humanité qui a une volonté et une intelligence. C'est-à-dire que il y a aussi une autre médiation qui est une médiation ascendante, c'est-à-dire que Jésus a voulu de sa pleine volonté, de son intelligence, il nous a aimés, il nous a connus, il nous a sauvés, humainement. Et donc toute la vie de Jésus, c'est une très belle phrase de Benoît XVI, de Ratzinger, il parle de la vie de Jésus comme d'une pro-existence, c'est-à-dire d'une existence pour. Ce que, en termes plus théologiques, Saint Thomas appellera ça une médiation instrumentale. C'est-à-dire que, vous voyez, il faut que nous saisissions que la vie humaine, enfin la vie de Jésus, n'est une existence. Jésus n'a pas besoin d'être sauvé. Il est le sauveur. Il est sans péché, etc. Donc toute la vie humaine de Jésus, toute cette vie humano-divine, pardon, elle n'est que pour nous. Donc tout ce qu'a fait Jésus, les moindres actes qu'il a posés, c'était par amour pour nous. Et donc, à ce moment-là, tous les actes de Jésus deviennent des actes sauveurs. Il a mérité pour nous le salut. C'est extraordinaire.
Deviennent des actes sauveurs ?
Ouais. Ouais.
Deviennent des actes sauveurs ?
Parce que ce sont toujours des actes.
Parce que c'est de l'amour.
Oui, parce qu'il le fait pour toi. Oui. Pas seulement sur la croix, mais quand Jésus se brossait les dents, quand il allait au marché avec sa maman, il faut savoir. Voilà, c'est une vie qui naît. Alors voilà, c'est pour nous, c'est un grand mystère, hein, vous voyez, mais C'est une vie toute donnée. Dès l'incarnation, la vie de Jésus est entièrement, dans son humanité, est entièrement donnée pour nous. Donc, elle trouvera sa finalité sur la croix et sa plus grande expression. Et puis, bien sûr, dans le respect de l'humanité, Jésus va pouvoir l'exprimer, l'expliciter de plus en plus quand humainement, il va grandir dans sa conscience, dans son intelligence, dans sa volonté. Mais dès le premier acte de l'incarnation, la vie humaine de Jésus n'est qu'une existence dont tous les actes, dont toutes les pensées ne sont orientées que pour notre salut. C'est magnifique, hein ? Il nous a aimés, oui. Il nous a aimés. Ouais. Et il s'est livré pour nous. C'est Galates 2:20. Mais il faut comprendre la profondeur de l'amour. Donc il n'y a aucun acte de Jésus qui n'ait été un acte orienté vers notre salut. Ouais. Et ça, c'est récapitulé à la croix. Où là, c'est le maximum d'amour qu'il donne. Puisqu'il donne tout à sa vie. Est-ce que ça éclaire?
Oui.
Bon, il y a une autre raison aussi, hein, qui est tout à fait, alors là, c'est pas de l'ordre de la médiation, mais de l'ordre ontologique. C'est-à-dire qu'à partir du moment où Dieu s'est uni une humanité, qui serait le premier d'une multitude de frères, et bien la réconciliation, c'est-à-dire que en Jésus-Christ, la réconciliation de l'homme avec Dieu est définitive et réalisée. Et donc ça, c'est extraordinaire. Parce que ce n'est pas autre chose que ça, le salut, que d'être uni à Dieu. Qu'est-ce qui nous empêche d'être uni à Dieu? C'est le péché. Bon, en fait, je suis en train de donner le cours de christologie au séminaire, alors ça m'est assez présent, mais bon, il faudrait faire 20 heures. Là. Bon, il est 22h32, là. On ne pourrait pas dire, mais... On a sûrement des choses à faire demain, non? Et c'est une telle joie de vous voir. Est-ce que tout le monde pourrait mettre sa caméra quand même, que je vois des visages, quoi, pas des fonds d'écran avec un nom? Blandine. En plus, c'est vrai, il y en a plein que je ne connais pas, c'est génial. Ah, Gildas est là. Mais c'est fou, ça. Bonjour, Gildas. Donc, il y a MMB, je ne sais pas qui c'est. Je dis bonjour à Claire aussi. Je sais pas. Camille, bonjour, Camille. Il y a des Marie, des Anne-Cécile, des Marie-Aimée. Ah, bah, si, Anne-Cécile. Ah oui, Marie, pardon. Claire Debigny, par exemple, je ne la connais pas, Claire Debigny. Marie Molin, ça ne me dit rien. Ça. Julie, c'est qui ça, Julie? On se connaît, Julie? Marie, Claudine.
Bien sûr qu'on se connaît.
Ah, Claire. Ah mince. Oh là la vache. Et c'est qui? Julie. Ah, Claire Source. Bonjour. Clarisse, je connais. Marianne, je connais. Donatien, quelle joie de te voir. Comment vont les enfants?
On ne t'entend pas.
Ouais, il faut mettre le micro, Donatien. Bon, il a des enfants, c'est des monstres. Hein. Enfin, dites rien. Il
faut mettre le micro, c'est ça?
Ouais, c'est ça. Bravo, on t'entend.
Les enfants vont très bien dans notre nouvelle maison.
Ah, bah oui, ah, bah, oui c'est vrai. Oui, je sais, je suis attendu. Oui, ouais, mais alors en ce moment, c'est difficile. Hein, c'est...
Il y a votre nom sur la porte, c'est marqué Père
Gilles. Ah, je vais arriver, je vais venir. Ta femme va bien aussi? Ah, il a coupé. Bon. Bon. Écoutez, j'espère qu'un jour on pourra se voir tous ensemble, en chair et en os. Ce serait sympa. J'ai cru comprendre qu'on ne pouvait pas se balader après le 11 mai, c'est ça? Enfin, que c'était difficile, quoi, non? C'était pas.
Jusqu'à 100 km.
Ouais, voilà, d'accord. Ouais.
Donc, vous pouvez quasiment venir à Lyon.
Ah oui, il y a le double. C'est ça. Ou alors, on fait la moitié du chemin.
Ah, c'est une idée, ça.
On se retrouve à Valence.
On se géolocalise. On essaie de voir par rapport à tous où on habite, les 100 km qui nous rapprochent le plus possible.
Et ça, c'est une
station-service sur l'autoroute. On fait un groupe de prière, oraison, on évangélise tout le monde. Ça va être génial.
Si vous avez une autorisation professionnelle, vous pouvez venir jusqu'à Lyon. C'est votre métier.
Hein?
C'est votre métier de prêcher. Si vous avez une autorisation professionnelle, vous pouvez venir.
Ah oui, c'est ça. Ah oui, ah oui, il faudra que je me débrouille. Ah oui, c'est vrai.
Le problème, c'est que les regroupements, c'est 10 personnes max.
Ah oui ?
Oui.
C'est 3 soirées.
Donc, ça va faire un peu juste.
Ou alors, il faut que c'est moi qui dois venir, en fait, c'est ça. Je fais la tournée. Bon, eh bien écoutez. Non mais attends, mais Julie quand même, mais c'est qui Julie? Attends, j'ai Julie. D'où est-ce qu'on se connaît?
Comment ça se fait que vous ne vous souvenez pas de moi?
Ah, j'ai une mémoire de poisson rouge, c'est incroyable.
Oh, on avait fait un groupe de prière à Notre-Dame de Vie. C'est moi qui prépare le matin.
Mais où ça qu'on avait fait un groupe de prière?
À Notre-Dame de France, on avait fait un groupe de prière.
Ah oui, c'est vrai. Mais moi? Oui, mais je suis venue une fois.
Oui. Ah, bah, cette fois, je suis venue.
Ah oui, c'est ça. Ah bah. Ah bah. Oui, bon, bah. Moi, j'ai une petite. Voilà. Bon, Eugénie, ça va bien. Isabelle, ça va?
Ça va.
Ton riolet me manque. Hein, donc,
Ah. Je cuisine pour ma famille, ils apprécient beaucoup.
Ah, c'est super, c'est super. Bon, il y en a qui sont tout seuls ou il y en a quand même qui sont en famille un peu ou,
En famille à Lyon. Ouais. Je suis bloquée.
Famille Toulouse.
Famille Toulouse pour Héloïse. Mmh.
Bon, Gilles, famille marseillaise.
Ouais, bon, ça ne m'étonne pas les deux camarades.
Claire, elle est partie. Non, il en manque deux. Il en manque deux.
Ah.
Ah, je suis avec mon chat.
Ah, c'est. Ouais, c'est une compagnie aussi. Et Laurette. Alors Laurette, c'est qui Laurette? Alors, Laurette.
C'est Laure, le camarade.
Hein?
Bon. On t'entend pas alors.
Ah, c'est Laurette, c'est Laure, ah, oui. Camarade. Ah,
je disais, bonjour, je ne suis pas avec les Marseillais, je suis dans le Gers.
Ah oui, d'accord. Tu es toute seule?
Non, je suis avec mon frère et deux amis.
D'accord. C'est fou. Anne-Cécile, tu es toute seule à Rennes? Ou tu as pu rejoindre le Gers?
Non, je suis toute seule à Rennes. Oh. Je suis toute seule à Rennes, oui.
Marianne, toute seule à Grenoble, à Clermont? Marianne. Coucou Marianne. Elle me regarde fixement, mais bon, elle ne doit pas m'entendre. Elle ouvre pas son micro. Bon. Eh bien, super. Eh bien, écoutez, je vous remercie beaucoup. On peut peut-être terminer en disant un je vous salue Marie.
Merci à vous.
Se tenir dans la communion, prier les uns pour les autres. Et puis peut-être un prochain rendez-vous si vous voulez. Si ça vous plaît.
Oui. Ouais.
Oui, oui.
Et puis je vais vous bénir par Zoom. Bénédiction Urbi et Zoomi. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Amen. Allez dans la paix du Christ.
Merci beaucoup.
Bonne nuit.
Merci beaucoup.
Ah, bien. On se tient à prière. Merci à vous. Vraiment, merci beaucoup. Merci. Ça fait du bien, vous ne pouvez pas vous imaginer. Ouais. C'est super. À très, très bientôt. Rapidement.
À bientôt.
À bientôt. À tous.